au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie, dont la mission, vous le savez, et de donner la parole aux académiciens des 5 académies qui composent l'Institut de France, notamment et surtout lorsque l'un de ces académiciens vient de publier un ouvrage, et c'est le cas de mon invité aujourd'hui, Pierre Bauchet, de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Bauchet, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé « Régulation et mondialisation ». Le modèle américain revu par l'Europe. Cet ouvrage est paru dans la série Économie et innovation de la collection L'Esprit économique aux éditions L'Harmattan. Le mot régulation, monsieur Bauchet, bien qu'il soit passé dans le vocabulaire français, est-il vraiment un mot d'origine latine, bien sûr, mais a-t-il un sens particulier? Quelle est son origine?
Et son origine est une origine mécanique. La régulation est d'abord, dans le vocabulaire français au moins, sinon dans tous les vocabulaires internationaux, la représentation d'une régularisation d'un processus. Autrement dit, dans le domaine mécanique, nous avons tous connu des locomotives avec des tiges au-dessus, avec des petites boules qui régularisaient le fonctionnement, de même que dans les centrales électriques à eau, où on voyait au-dessus de la turbine une tige avec des petites boules qui s'écartaient quand les turbines augmentaient de vitesse de façon à empêcher que la turbine ne passe à travers le plafond de la centrale, ce qui arrivait d'ailleurs fréquemment, malgré le régulateur.
Donc, régulation, c'est fait pour équilibrer, qu'il n'y ait au fond pas trop et ni trop peu, si je comprends bien.
Tout à fait. Alors, c'est passé dans le langage juridique avec immédiatement un contresens entre le vocabulaire américain et le vocabulaire européen, ou français plus exactement. En effet, si vous traduisez aujourd'hui, si vous consultez un dictionnaire, le dictionnaire vous dira que la régulation se traduit en français, regulation se traduit en français par réglementation.
Mais ce n'est pas tout à fait pareil.
C'est pas du tout la même chose.
Pas du tout pareil.
Une régulation en Europe, c'est le processus par lequel on régularise un système à l'aide de réglementations. Mais on n'exprime pas la réalité de ces réglementations, ces textes de réglementation, par le mot de régulation. La régulation, c'est la politique générale qui met sur pied ou qui oriente les réglementations. Aux États-Unis, regulation, c'est la réglementation, c'est la règle.
Lorsque vous avez écrit cet ouvrage, Pierre Bauchet, vous aviez certainement un but précis. Quel était-il?
Eh bien, en réalité, cet ouvrage est, je dirais, une fausse couche par rapport à ma thèse que j'avais faite en 1947, très exactement. J'avais reçu une bourse pour aller aux États-Unis étudier à l'Université de Columbia. Et une amie qui était assistante à l'université de Chicago, qui avait beaucoup de bouteilles, pardonnez-moi l'expression, m'avait dit « Pierre, si vous voulez faire une thèse aux États-Unis actuellement, faites-la sur la régulation. » Ce système de gouvernement qui s'est épanoui au niveau fédéral à travers le New Deal américain est tout de même un processus très méconnu en Europe et qui mérite une étude particulière. J'ai fait effectivement 9 mois sous la haute direction de M. Bombright, qui était un disciple de Roosevelt et qui était très introduit dans ces milieux, une thèse de 300-400 pages à l'époque sur la régulation américaine des prix.
Mais alors cette politique de régulation américaine, qui a toute une histoire, que vous voulez certainement nous la raconter, elle est assez différente de celle qui est en Europe actuellement. Alors peut-être faut-il commencer par parler des différences entre la régulation américaine et la régulation européenne.
Parfaitement, madame. En fait, la régulation américaine est profondément différente pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est née il y a quelques siècles et demi avant la régulation française, la nôtre date très exactement de la fin du XXe siècle. C'est-à-dire à partir, elle n'existait pas avant les années 1980. Aux États-Unis, quand j'y suis arrivé donc en 1947, en réalité, elle avait encore une très longue histoire derrière. Et l'enseignement de Bombright à l'Université de Columbia consistait précisément à nous expliquer la révolution qu'avait représentée la régulation, qui était d'abord une régulation communale, puis une régulation au niveau des États américains,
fédéral,
ce qui correspondrait à nos États, européen, et qui est monté au niveau fédéral, essentiellement qui s'est épanoui, je dirais, à propos d'une part de la période de crise de 1929, puis ensuite à propos des difficultés de la guerre. Alors, autrement dit, la régulation américaine fédérale date du tout début du XXe siècle, alors que la nôtre n'a commencé à être connue et appliquée, et notamment la régulation européenne qui coordonne ces régulations des États, ne s'est épanouie qu'à la toute fin du
XXe siècle. Presque un siècle d'écart.
Presque un siècle d'écart. Et on peut dire ne fonctionne vraiment, je ne dirais pas à plein, car je crois qu'elle va encore connaître des développements au début du XXIe siècle.
Alors, cette régulation américaine était-elle inspirée d'une philosophie très différente de la nôtre, par exemple ?
Oui, c'est non seulement une question de date, mais c'est aussi une question de philosophie. Il faut voir que le gouvernement américain a toujours été, tant au niveau des communes que des États américains, que du fédéral au moment où la régulation s'est montée au niveau fédéral, toujours inspiré de l'idée centrale suivante. La liberté est le problème fondamental, il ne faut pas d'intervention économique. Ce qui est très remarquable et très significatif, qu'aujourd'hui encore, la Constitution américaine n'a jamais été modifiée depuis l'origine et elle ne parle nulle part de pouvoir de réglementation de l'économie. Certes, il existe un pouvoir réglementaire aux États-Unis qui est celui du président. Mais cette réglementation, par principe, ne devait pas être une réglementation économique. Rien n'est changé. Tous les mécanismes de direction économique qui ont été mis au point depuis aux États-Unis, on n'en voit pratiquement pas trace à l'intérieur de la Constitution américaine qui n'a pas changé. Son esprit, son application a changé. Mais l'idée qu'il puisse y avoir une réglementation générale sur l'économie au plan fédéral n'existe pas.
C'est un grand respect de la concurrence, par exemple ?
C'est un très grand respect de la concurrence, c'est une volonté de respect de la concurrence et de la liberté.
La grande idée
fondamentale sur laquelle... Alors, bien sûr, les différents éléments qui sont intervenus, notamment les crises successives, et notamment la crise de 1929, qui a été un drame bien supérieur là-bas encore aux États-Unis qu'en Europe, a conduit les gouvernements, et notamment le gouvernement de président Roosevelt, à faire ou à rechercher des moyens d'intervention sans modifier la Constitution. Des moyens d'intervention qui ne seraient pas condamnés par la Constitution, qui donc pourrait exister, mais qui ferait en fait ce que dans son esprit la Constitution américaine condamnait, c'est-à-dire une intervention profonde dans l'économie américaine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les États-Unis, cette façon d'interpréter la Constitution, nous voyons d'ailleurs en Europe aujourd'hui et même en France, que dès qu'il y a de petits changements, on modifie les constitutions. Nous avons eu une quantité de constitutions successives en France et nous sommes encore en train de les modifier.
Et on l'envisage encore.
Aux États-Unis, ça n'a pas de sens. Les choses se font quand elles sont nécessaires, mais l'esprit fondamental ne doit pas être modifié. Sans doute, les États-Unis rencontraient avec les économies de guerre des nécessités d'intervention qui s'étaient déjà fait jour à propos de leur crise. Le New Deal américain était une véritable révolution et avec elle, la nécessité d'avoir des mécanismes institutionnels au niveau fédéral, non seulement au niveau municipal, mais au niveau des États, puis au niveau fédéral, des institutions permettant d'assurer une régulation économique indépendante des pouvoirs existants, mais qui aurait des effets considérables, qui a eu des applications considérables et des décisions. Ce n'était pas seulement un examen de la situation auquel elle opérait, ce n'était pas seulement l'édition de textes ou de décisions, c'était aussi des autorités indépendantes de régulation, les Independent Regulatory Commission, qui avaient un pouvoir de sanction sur le non-respect, ce qu'on appelle aux États-Unis le pouvoir de réglementation et le pouvoir juridictionnel, qui est une expression qui n'a pas le même sens en français d'ailleurs non plus. Quoi qu'il en soit, on en est arrivé aux États-Unis à avoir une philosophie générale de la Constitution qui n'est pas respectée finalement par ce qui a été la politique de régulation américaine qui n'a jamais été condamnée, loin de là, elle existe toujours, elle s'est développée, elle se développe de plus en plus. Autrement dit, nous avons donc, pour des raisons historiques et pour des raisons philosophiques, une régulation qui, en apparence, est profondément différente de la régulation française. Mais il n'en reste pas moins que la régulation française, du moins les autorités françaises, se sont heurtées au même problème, c'est-à-dire des problèmes de crise, des problèmes de guerre.
De pénurie, parfois. De pénurie.
Tous problèmes qui ont été réglés chez nous par une voie totalement différente, puisqu'en fait, chez nous, nous n'avions pas de système de régulation, nous avions des systèmes d'administration économique centralisée. Et cette administration, nous l'avons beaucoup développée au moment de la guerre, c'est-à-dire à partir pratiquement de la formation d'une industrie de guerre. Et il ne faut pas oublier que cette mentalité d'administration centralisée a persisté à l'intérieur de la planification dite souple, qui a fini par ne plus être une planification du tout d'ailleurs, mais qui au départ était vraiment une planification inspirée, non pas identique là non plus, du modèle soviétique. Donc système centralisé avec des administrations et des entreprises d'État. On a nationalisé au nom précisément de la difficulté et de la nécessité d'avoir des industries de guerre et des industries nationales permettant de redresser les dégâts faits par la guerre. Si bien que quand je suis entré des États-Unis naïvement dans l'université où j'ai présenté ma thèse, je dois dire à ma grande honte que ma thèse n'interrogeait personne. Ça m'a pas empêché d'avoir une mention, mais au moment de la faire éditer, je me suis rendu compte que c'était totalement inutile, que je ne trouverais pas d'éditeur.
Parce que ça semblait normal, au fond, aux gens, que ça fonctionne comme ça. Ils n'avaient pas pensé qu'il pouvait y avoir un autre schéma.
On pouvait faire des ouvrages sur la planification, ce que n'ai pas manqué de faire, mais on ne pouvait pas faire d'ouvrage sur la régulation. Personne n'aurait su ce que ça voulait dire. Ils voulaient savoir. L'administration française est restée totalement hermétique jusque, on peut dire, à la fin du XXe siècle.
Ça prouve qu'il y a plusieurs schémas de régulation économique possibles, plusieurs modèles. Vous parliez d'un modèle américain, d'un modèle soviétique, et il y a un modèle européen, ça en fait déjà trois.
En Russie, ce n'est pas de la régulation, c'est de l'administration centralisée et publique, totalement, et d'entreprise publique, n'est-ce pas, de direction centralisée. Il y a eu aussi des décisions centralisées en matière de prix en France, n'est-ce pas, menées par les différentes administrations dès la période de guerre, puis après la guerre, les plans donnaient des plafonds de prix, des types de rémunération, etc. Mais ce n'était pas de la régulation. Ça, c'était des décisions autoritaires centralisées.
Oui, ce n'est pas du tout la même chose.
Ce n'est pas du tout la même chose.
C'est bien intéressant de voir la différence. Est-ce qu'il y a un moment où, justement, les politiques des gouvernements américains et européens se sont tout de même rapprochées ?
Alors, elles se sont rapprochées sans porter les mêmes noms. C'est-à-dire que petit à petit, nous avons supprimé le rationnement. Comme je dis petit à petit, il faut se souvenir que la fixation des prix du pain et du fameux croissant, c'est le gouvernement Barr, dans les années à la fin des années 70, qui l'a réalisé.
70. Si tardivement.
Exactement. Le rationnement existait encore à la fin des années 50, quand je suis rentré des États-Unis. On avait des tickets de pain quand je suis arrivé à New York. Ma stupéfaction était de voir du pain blanc sur la table. Ça n'existait pas. Et les systèmes de communication étaient en France parfaitement archaïques, sauf dans les chemins de fer, par rapport à celui qui existait aux États-Unis. Autrement dit, quand je suis arrivé là-bas, à l'époque, c'était deux mondes complètement différent. Il n'est donc pas étonnant que les systèmes de régulation, ou plutôt de direction de l'économie, aient été complètement différents.
Mais tout de même, à un moment donné, la France, et puis l'Europe par d'autres moyens peut-être, s'est rapprochée, ou en tout cas a éprouvé le besoin de regarder de près ce qui se passait aux États-Unis.
Il y a eu certainement un mouvement de rapprochement de ce qu'on appelle la gouvernance, n'est-ce pas, dans un mot qui ne veut rien dire, à travers les problèmes posés par l'après-guerre. Et des deux côtés de l'Atlantique, si les gouvernements ont toujours senti la nécessité d'intervenir, à l'époque, leur méthode d'intervention était radicalement différente. Aujourd'hui, ils se sont rapprochés. Pourquoi ? Tout d'abord parce que les États-Unis ont très vite senti après la guerre qu'on ne pouvait pas conserver une économie de type totalement libéral. Sans doute se sont-ils orientés très vite vers une libéralisation d'un certain nombre de contraintes. Mais là encore, les mots n'ont pas le même sens. Il faut se souvenir que la régulation américaine avait entraîné des interventions. J'ai connu le temps où dans les avions, la dimension c'était dans les années 80 encore, la dimension des sandwichs dans les avions était réglementée par les régulateurs américains, alors que pratiquement on ne l'a jamais réglementé en France. Autrement dit, tout cela était ou restait profondément différent. En France, nous avons simplement dénationalisé des entreprises, nous avons rendu la direction des prix de plus en plus souple, mais il n'était pas encore question de régulation en sens de établir des réglementations qui fixaient un cadre au fonctionnement d'entreprises qui étaient libéralisées. L'idée de faire une espèce de cadre commun par des organismes, dites des autorités de régulation indépendantes, cette idée-là n'avait pas encore pénétré chez nous.
À partir de quand va-t-elle commencer à pénétrer ?
C'est grâce à Bruxelles. C'est Bruxelles.
Donc avec l'Europe, en fait.
C'est tout à fait cela. C'est l'Europe qui, finalement, a été la première à dire, si nous voulons libéraliser, paradoxalement, ce mot était extraordinairement ambigu en France, puisque finalement, c'est le gouvernement socialiste qui a le plus dénationalisé d'entreprises, il ne faut pas l'oublier. Mais Bruxelles a très vite senti la nécessité d'encadrer cette libéralisation des entreprises et des marchés par une régulation européenne. Autrement dit, la régulation européenne a précédé les régulations nationales. Et ça s'est passé dans les années, à partir de M. Delors a été avec un certain nombre de ses adjoints, le grand initiateur de ces politiques de régulation dans toute l'Europe. Alors, nous sommes donc partis très loin les uns des autres, nous sommes donc rapprochés dans l'après-guerre, beaucoup plus tardivement pour nous. Mais que nous le voulions ou non, on n'osait pas le dire en disant la régulation américaine, c'est le libéralisme. Ce n'était pas vrai du tout, puisqu'au départ, les régulateurs américains ont été des gens qui ont fait une politique dirigée sans qu'elle soit conforme à la Constitution américaine. Bombright disait, dans le cours de Columbia que j'avais suivi, il disait à juste titre, ça a été une révolution économique fondamentale, mais la Constitution n'a pas bougé.
Ils n'ont pas été sanctionnés pour avoir été contraires.
Ils n'ont jamais été mis en cause. La régulation américaine est critiquée, comme la régulation française, d'ailleurs, d'une façon assez parallèle, ce qui est curieux. Mais elle n'a jamais été condamnée, loin de là, puisqu'elle s'est épanouie aux États-Unis, à la limite en même temps qu'en France, pas tout à fait dans le même sens, nous le verrons. Mais ce rapprochement récent des politiques américaines et européenne s'est épanouie vraiment à travers le marché commun. Autrement dit, la régulation européenne, qui n'est pas seulement la régulation des États européens, mais d'abord la régulation de l'Europe de Bruxelles, est un phénomène qui a été fondamental dans le rapprochement de la situation des États-Unis, de la gouvernance des États-Unis et de l'Europe.
On marque une petite pause et on va retrouver Pierre Bauchet, l'auteur du livre « Régulation et mondialisation, le modèle américain revu par l'Europe ». C'est un livre paru aux éditions L'Harmattan. Retour dans notre studio en compagnie de Pierre Bauchet et nous continuons à parler de la régulation et particulièrement de la régulation européenne. Cette régulation européenne qui semble, si je vous comprends bien, Pierre Bauchet, avoir un profil personnel, disons particulier, qui n'est pas américain, mais qui est personnel à l'Europe.
Alors,
en quoi est-ce particulier ?
Il ne faudrait pas ignorer tout de même que c'est, je dirais, un peu l'esprit de la Constitution américaine qui est passé dans la régulation européenne. L'idée, si vous le voulez, que la liberté a des vertus et que ces vertus, elles doivent être compensées par des réglementations. Car là encore, s'il est vrai que la régulation américaine n'est pas libérale, il est certain qu'elle a introduit, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, elle a introduit une grande quantité de nouvelles réglementations. Au fur et à mesure que l'on rendait en Europe, comme aux États-Unis d'ailleurs, leur indépendance aux entreprises, il était fondamental que des réglementations, des prix, des problèmes sociaux de tous ordres naissent pour éviter que la liberté ne mène à des choses aberrantes dans beaucoup de domaines. J'ai oublié de dire tout à l'heure à propos des États-Unis que nous ignorons qu'aux États-Unis, au départ, non seulement la régulation avait conduit à introduire des directions économiques dans l'économie américaine, mais aussi à nationaliser des entreprises. Il ne faut pas oublier que la Tennessee Valley Authority, la TVA, que j'ai pu visiter grâce aux relations que j'avais établies là-bas, était vraiment, elle fournissait quelque chose comme 70% de l'électricité aux États-Unis. Elle a régulé tout le cours du Mississippi. Dans la région du Mississippi, vous aviez alors tout ça par une entreprise publique. Tous les problèmes de remembrement des terres, etc., étaient entre les mains d'une entreprise publique. Aucune entreprise française n'a réalité en même temps un tel ensemble. Autrement dit, la régulation américaine n'était pas aussi libérale qu'on veut bien l'imaginer, en sens inverse. Encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que le passage de la régulation européenne et l'installation d'une régulation européenne est une marche vers le libéralisme. Ce n'est pas vrai à beaucoup de points de vue. Là encore, on estime que la liberté est facteur d'une certaine liberté d'entreprendre, une certaine liberté des particuliers, mais en sens inverse, la régulation introduit un grand nombre de nouvelles réglementations en Europe, comme elle l'a fait d'ailleurs aux États-Unis. Et en fait, la régulation européenne s'est présentée comme une espèce de cadre commun à l'ensemble des politiques de concurrence en Europe au moment où tout se libéralisait. Alors pourquoi a-t-on jugé utile, indispensable même, d'avoir une régulation européenne ? Eh bien tout simplement parce que nous nous sommes trouvés en face de situations qui devenaient européennes et qui ne cessaient d'être nationales. Les problèmes de pandémie, les problèmes de conservation de l'environnement, les problèmes de marge d'entreprise qui étaient toutes ou en grande partie avec des marchés transnationaux, au moins en plan d'Europe, sinon en plan mondial, ont conduit à une situation où on ne pouvait pas ne pas avoir une réglementation qui dépassa la réglementation étatique, qui en Europe est devenue insuffisante, comme elle avait été aux États-Unis un siècle précédent, n'est-ce pas ? C'est-à-dire aux États-Unis au cours du XIXe siècle. C'est chez nous qu'il est apparu indispensable d'avoir une réglementation à ce qui n'est pas un niveau fédéral.
Non, l'Europe n'est pas une fédération, c'est bien ce que j'allais vous dire.
On ne sait pas. L'Europe est une quasi-fédération.
Quasi-fédération.
C'est une quasi-fédération. Elle n'a pas tous les pouvoirs d'une fédération, mais elle a quand même beaucoup de pouvoirs.
En tout cas, celui d'avoir formé un cadre de règlement.
Un cadre général. Et le mérite de la réglementation européenne, c'est d'avoir, par ces différents organes de décision, engendré une situation dans laquelle il ne pouvait pas y avoir d'intervention, dans la mesure où ce n'était qu'une quasi-fédération. Il n'était pas question qu'elle réglemente tout, comme le fait la fédération américaine. N'oubliez pas que la fédération américaine a des immeubles qui sont beaucoup plus grands dans les différents domaines que les secrétariats d'État américains qui sont relativement petits. C'est comme si vous aviez en France des autorités de régulation qui soient le triple, le quadruple de ce qu'ont nos administrations centrales. C'est exactement la situation américaine. Nous n'en sommes pas là, loin de là. Mais Dans la mesure où la Fédération européenne, la quasi-fédération européenne, est obligée de surveiller tout ce qui se passe en Europe, elle a elle aussi une administration dont on exagère l'importance, puisqu'elle est à peu près égale en importance à l'administration de la ville de Paris, en hommes. Autrement dit, ça n'est quand même pas un centre énorme comme aux États-Unis, ce n'est pas le pouvoir fédéral. Mais c'est elle qui a initié, dans l'ensemble des États européens, des agences qui sont des agences indépendantes. Les autorités de régulation indépendantes en France, chaque État du marché commun a été contraint
de créer des agences,
agences.
Qui sont indépendantes sur quel plan alors?
Voilà, c'est là où il faut. Je vais d'abord passer par une autre étape du raisonnement, c'est que le marché commun n'a pas pu prétendre réglementer directement ce qui se passait dans les États. La réglementation et surtout la sanction de la réglementation passe en principe par une administration indirecte des États. Bruxelles recommande un certain nombre de choses, mais l'application et l'exécution de cette recommandation est faite par les autorités de régulation des États. Et c'est parce qu'il fallait éviter que Bruxelles fasse tout que l'on a inventé les autorités de régulation nationales en Europe. Et c'est à cette occasion que se sont développées dans toute l'Europe des autorités de régulation nationales comme nous en connaissons.
Alors, quelques exemples. L'autorité de régulation de la santé, par exemple, des transports.
L'AHS, l'autorité de régulation des chemins de fer, des transports internes.
Des marchés financiers aussi, je crois.
Des marchés, bien entendu. Nous en avons à peu près autant que les Américains. Si nous devons avoir actuellement une bonne trentaine d'autorités de régulation indépendantes, dont l'importance est totalement différente. Par exemple, l'autorité de régulation des marchés financiers que vous avez cité a une importance fondamentale dans le fonctionnement des marchés financiers français.
Avec un pouvoir de sanction, justement.
Avec un pouvoir de sanction.
Tandis que d'autres ont un pouvoir de conseil.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les décisions que prend Bruxelles dans ses propositions que font les différents organismes bruxellois, ces propositions doivent être transposées dans le droit national. Et elles sont transposées par les autorités nationales de régulation. Elles sont transposées par des autorités juridictionnelles, comme par exemple le Conseil d'État, qui précise, ou les ministères, qui établissent en droit national des textes, n'est-ce pas, dont le Conseil d'État assure qu'ils sont conformes au droit national, mais qu'ils doivent être aussi, c'est maintenant, depuis les débuts du marché commun, toute décision qui est prise en France doit être conforme au droit du marché commun.
Ça fait deux droits auxquels on se réfère, finalement. Enfin, c'est peut-être à peu près les mêmes.
On transpose dans le droit national ce qui a été décidé au niveau bruxellois. Mais c'est une autorité nationale qui effectue cette transposition. Voilà, c'est un point.
Et nos amis anglais qui ne font jamais rien comme personne, dit-on, ont-ils créé aussi des agences indépendantes de régulation?
Alors, votre question est tout à fait pertinente, parce qu'effectivement, à mon grand étonnement, je suis aperçu à cette occasion que les Anglais, qui toujours ont eu des autorités déconcentrées, comme on dit, n'est-ce pas? Mais ces agences n'étaient pas des agences de régulation avec pouvoir de sanction pour certaines, comme nous les observons aujourd'hui. Mais ils en ont créé à peu près au même rythme que les autres pays du marché commun. C'est-à-dire que paradoxalement, eux qui sont tellement opposés à Bruxelles en apparence, ils ont en fait, probablement après avoir inspiré cette notion de régulation aussi au niveau de Bruxelles, en tous les cas ils ne s'y sont pas opposés, ils ont changé l'esprit de pas mal de leurs administrations à partir de l'établissement d'autorités de régulation. Sur ce plan, ce sont presque, je ne dirais pas des modèles, mais ils n'ont pas fait moins bien que le reste de l'Europe. C'est là un paradoxe de la position anglaise, qui n'hésite jamais à fustiger ce que fait Bruxelles en théorie, mais qui en fait s'est empressé de suivre ces régulations parce que, comme le reste de l'Europe, ils se sont aperçus qu'on ne pouvait pas fonctionner sans.
Et oui, c'est devenu indispensable. Pierre Bauchet, est-ce qu'il existe alors donc des différences actuelles? Alors, on a beaucoup parlé des différences historiques, j'allais dire, entre la régulation américaine et celle de la France et de l'Europe. Mais actuellement, est-ce que ces différences persistent?
Alors, ce ne sont pas les mêmes, mais il y en a qui persistent, qui sont, je dirais, plus fondamentales, et que nous aurons plus fondamentales encore, parce qu'elles ne sont pas seulement le fait de l'histoire, ce sont des faits actuels qui l'y obligent. Cette différence, c'est parce que, tout d'abord, la régulation américaine reste toujours inspirée de l'idée fondamentale que la liberté et la concurrence arrivent à corriger même les maux qu'entraîne la concurrence.
Ça s'autorégule, au fond, d'une certaine façon.
Ça s'autorégule ex post. Et comme ils ont horreur d'établir des réglementations, ils en ont donc nous sinon plus, encore actuellement. Comme ils ont horreur de faire des faux pas réglementaires dans le sens de la réglementation, ils disent une réglementation ne peut être appliquée qu'à partir du moment où on a constaté qu'elle était efficace.
A posteriori.
A posteriori. Et ce n'est pas du tout notre esprit, et pour des raisons qui, je crois, nous rendent plus actuels. Je veux dire par là que quand vous avez un problème de santé grave, si vous attendez
ah oui, on va pas attendre l'épidémie.
Que les microbes se développent, il est bien évident que vous arriverez beaucoup trop tard. C'est ce qui nous est arrivé à deux reprises, n'est-ce pas ? Nous avons réglementé dans le domaine de la santé beaucoup trop tard. Et les Anglais, dans le domaine de la vache folle, par exemple, bien après nous.
On aurait dû anticiper, alors. Il faudrait anticiper des réglementations.
À partir du moment où il y a quelque chose, l'Europe a l'idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mmh. C'est-à-dire, tout de suite, on prend des mesures. Et je crois que malheureusement, dans le monde moderne, je dis bien malheureusement, parce que ceci conduit naturellement à une tentation d'excès de réglementation, n'est-ce pas ? Mais je crains que si nous ne faisons pas ce pas au début, du moment où l'on sent la nécessité de quelque chose, très souvent, il est trop tard. Il ne reste pas moins que ce fameux principe de précaution dont nous nous vantons, et qui n'est pas sans être profondément critiqué, ce principe de précaution nous est apparu à plusieurs reprises comme indispensable, notamment dans le domaine de la santé.
C'est et de la sécurité, certainement aussi.
Et de la
aussi,
sécurité, voilà, au oui. niveau du conflit international et autres. Et au niveau financier, il faut bien voir que la crise américaine, c'est pour ne l'avoir pas vue que nous sommes, dans le monde entier actuellement, embarqués dans une crise financière dont nul ne peut dire où elle va s'arrêter. Sur ce plan, la position de Bruxelles, inspirée par le directeur de la Banque de Francfort, qui est un Français, l'inspecteur des finances français, l'ancien gouverneur de la Banque de France, qui reste très très prudent, c'est-à-dire que lui n'a pas baissé les taux. Et quand il pense à les augmenter, il le fait avec une prudence de 6 août. Pourquoi ? Tout simplement parce que baisser les taux voudrait dire entraîner une perpétuation, une aggravation encore de la crise immobilière. Sans doute il est coincé entre, d'une part, le risque d'avoir, s'ils augmentent les taux, une récession économique, car l'économie américaine réagit extrêmement vite, et d'autre part, l'autre risque, s'il augmente les taux, de provoquer une récession. Autrement dit, le double risque d'avoir une récession d'une part et d'autre part une continuation de la crise est effectivement une position difficile. Nous avons préféré dans cette affaire, enfin la Banque de Francfort, qui n'a pas beaucoup de pouvoir d'ailleurs sur les politiques nationales, cette Banque de Francfort, pour le moment, dit nous maintenons des taux élevés qui risquent effectivement de conduire à une légère récession, vers laquelle il est probable d'ailleurs que nous allons, ce n'est pas moi qui le dis, et tout le gouvernement actuellement est d'accord sur ce point, et tous les pays d'Europe d'ailleurs, mais il vaut mieux avoir une légère récession que de prolonger encore une crise immobilière dont on voit les effets désastreux aujourd'hui.
Alors Pierre Bauchet, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être avez-vous une manière de dire votre position par rapport à cette régulation européenne ? Faut-il l'amplifier ? Faut-il au contraire la diminuer ? Quelle est votre conclusion ?
Ma conclusion, c'est de penser d'une part qu'elle va, la régulation européenne se développera de plus en plus aux dépens, il faut bien le dire, des régulations nationales. Pourquoi ? Parce que d'une espèce de massification des phénomènes de santé, des phénomènes d'éducation, des phénomènes des marchés européens qui nous obligent à les suivre au plan européen. Nous sommes en train, le parallèle avec le développement de la régulation fédérale aux États-Unis est absolument frappant quand on regarde les textes. Je crois donc que la régulation directe par Bruxelles sera indispensable, de plus en plus. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ceci ne conduira pas fatalement à faire de cette régulation européenne le parallèle de la régulation américaine. Nous porterons beaucoup plus d'attention aux problèmes sociaux, à la réglementation sociale dans l'ensemble de l'Europe. Nous apporterons beaucoup plus d'attention aux problèmes d'environnement que les États-Unis, qui actuellement s'y refusent toujours d'une façon absolument paradoxale, mais toujours au nom de ce principe que la liberté soit procédée. Autrement dit, nous allons incontestablement vers un conflit, je dirais, international, parce que des régulations différentes sur le continent européen et américain conduiront finalement à des conflits commerciaux, dont nous voyons dès maintenant les préliminaires. Il ne faut pas oublier que tous les conflits que nous observons, par exemple, dans la réglementation des prix d'un certain nombre de produits, sont liés à ce que la régulation américaine n'est pas la même que la française. Mais je pense que la régulation européenne ayant un esprit différent, ces conflits resteront importants et, dans la mesure même où ils se développent, conduiront à un développement de la régulation européenne.
Une solution originale, donc la régulation européenne.
Je crois. Et au plan mondial, elle a actuellement une très grande réputation. Lorsque vous achetez un produit, madame, vous avez une autorisation de vendre ce produit en France. Quel est le label ? C'est une norme européenne. Nous sommes en train, avec 400 millions d'Européens à peu près, de diriger à peu près le marché mondial des produits, du commerce international. Aucun produit américain, aucun produit chinois ne peut pénétrer en France s'il ne respecte pas les conditions de la normalisation française. Ce qui fait dire à certains que la normalisation européenne, la régulation européenne, j'ai tort de dire française, la régulation européenne est en train de devenir une régulation mondiale. Je n'en suis pas aussi sûr, car ça a un aspect protectionniste qui amènera un jour des réactions. Mais c'est une façon de dire que nos préoccupations sociales et environnementales sont en train de passer au plan mondial. Merci, madame.
Merci, Pierre Bauchet. Je rappelle le titre de votre livre, Régulation et mondialisation, le modèle américain revu par l'Europe. C'est un livre publié aux éditions L'Harmattan.